Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle « 20 000 lieues sous ma chair ». L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair dans Le cœur sur la table. Produit par Binge Audio.
Salut, c'est Thomas Rozek.
RMC 6h06, la famille de Tiphaine Véron, toujours à la recherche de la vérité. 2 ans, jour pour jour, après la disparition de la jeune femme au Japon. Où en est l'enquête ? Nulle part. Elle est inexistante sur place, dénonce son frère.
Peu de choses sont aussi troublantes que les disparitions, qu'elles soient volontaires ou non, lorsqu'un être humain semble s'être tout bonnement envolé, qu'on a perdu sa trace. C'est le ressort dramatique de dizaines de feuilletons, de livres, de films et de faits divers tout à fait réels et pour cause. Chaque année, rien qu'en France, plusieurs milliers de personnes disparaissent sans être retrouvées. Et partout dans le monde, le phénomène existe. Pour les familles, pour celles et ceux qui restent, pour celles et ceux qui cherchent, l'angoisse peut être décuplée dans le cas où la disparition se fait à des milliers de kilomètres de distance. C'est exactement ce qui se passe dans l'histoire qui va nous intéresser aujourd'hui, celle de Tiphaine Véron, disparue au Japon en juillet 2018, recherchée inlassablement depuis par ses proches qui épluchent toutes les pistes et tentent de maintenir ouverte une enquête peu investie par la police locale, enquête dont on va parler dans notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Notre invitée pour en parler, c'est ma consoeur Caroline Gardin, basée au Japon. Elle a signé cet été pour le site Les Jours une série d'articles passionnants sur cette affaire, série baptisée « Tiphaine Véron a disparu ». Je lui ai demandé de me raconter pour démarrer qui est Tiphaine.
Tiphaine Véron, c'est une poitevine, une jeune femme qui a 36 ans et qui est passionnée de culture japonaise, qui aime beaucoup la culture, qui apprend la langue toute seule, en autodidacte, qui est fan du folklore japonais, surtout l'art, voilà, la musique, etc. Et qui part une première fois au Japon en 2013 pendant un premier voyage à Tokyo, qui revient enchantée par le pays. Et donc elle a envie d'y retourner et elle prépare son prochain voyage pendant au moins 6 mois. Elle est vraiment super impliquée dans l'organisation. C'est quelqu'un d'ailleurs qui est très méticuleux, qui est assez perfectionniste dans tout ce qu'elle fait. Donc elle prépare vraiment ce voyage-là avec beaucoup d'attention, et elle repart à Nikko, donc 5 ans après son premier voyage, en juillet 2018. Et sa première étape, donc elle arrive à l'aéroport international de Narita, elle passe une nuit à Narita, pas très loin, et sa première destination, eh bien, c'est Nikko, en fait. Voilà, c'est la ville de Nikko.
Est-ce qu'on peut expliquer ce qu'elle a de particulier, cette ville de Nikko ? Parce que c'est une destination qui n'est pas anodine pour les touristes au Japon.
Ouais, Nikko, en fait, c'est une ville, ce qu'on pourrait considérer comme une ville de la campagne japonaise, mais elle est particulière dans le sens où c'est une ville de campagne qui est quand même très touristique, parce qu'en fait, elle a dans son patrimoine le sanctuaire Toshogu, qui a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un sanctuaire absolument incroyable que les Japonais viennent visiter un petit peu comme nous. Voilà, on va visiter la Tour Eiffel. C'est vraiment l'incontournable, quoi, à très peu de distance finalement de Tokyo. Et d'autres, voilà, le patrimoine sacré, c'est vraiment ce que les Japonais et les étrangers viennent visiter à Nikkō. Outre sa nature sauvage et ses montagnes qui attirent notamment les amateurs de randonnée et de sport, voilà, en général.
Et donc c'est là que Tiffaine Véron se rend. À quel moment on perd sa trace ?
On perd sa trace le 29 juillet 2018, un jour, même pas 24 heures après son arrivée en fait à Nikkō. Ben, Tiffaine, brutalement, elle donne plus de nouvelles, alors qu'elle était dans son hôtel, un hôtel un petit peu excentré du centre-ville, mais qui était quand même proche d'un site qu'elle voulait visiter, les Kamanga Fuji Abyss. C'est un quartier résidentiel, très très calme, etc. Et puis, sa famille, elle s'interroge parce que, en fait, Tiffaine, elle donne beaucoup de nouvelles, elle aime partager tous les aspects de son séjour, elle envoie des photos sur WhatsApp, elle tient vraiment sa famille au courant, presque, ben, on va dire, heure par heure. Et puis, ce dimanche, donc elle prend son petit déjeuner à l'hôtel et ses données téléphoniques cessent d'émettre à partir de 11h40. Et depuis cette heure-là, précisément, on n'a plus aucune nouvelle de Tiffaine et on ne sait toujours pas où elle est aujourd'hui. Comme Tiffaine aussi, il y a un détail qui est important, c'est qu'elle est épileptique. Donc sa famille s'inquiète quand même pour son état de santé. Elle n'a pas fait de crise depuis plus d'un an. Mais voilà, c'est pas normal qu'elle ne donne pas de nouvelles, qu'elle n'envoie pas de photos. Et justement, d'ailleurs, à Poitiers, donc elle habitait vraiment à quelques mètres de la maison familiale, justement au cas où il y aurait un souci. Donc la famille, au départ, quand elle reçoit le coup de fil de l'ambassade quelques jours après sa disparition, elle pense que Tiffaine est à l'hôpital, elle a fait une crise. Les policiers ont recherché dans tous les établissements médicaux de la région pour savoir si il y a une admission ou si quelqu'un a appelé une ambulance. Et c'est pas le cas. Donc là, ils commencent à vraiment se dire, mais c'est pas possible, ça ne lui ressemble pas, quoi.
La difficulté, évidemment, on s'en doute, c'est que tout ça se passe à des milliers de kilomètres de distance. On l'a dit, la famille, elle est en France. Et Tiffaine a disparu au Japon. Comment se mettent en place les recherches pour la famille, vu cette distance? Comment est-ce qu'elle s'organise?
Très rapidement, donc après le coup de fil de l'ambassade, la famille se rend au Japon, à Nikkō, quelques jours après la disparition de Tiffaine. Et ils vont enchaîner les réunions avec la police et vont essayer de comprendre ce qui est arrivé à Tiffaine. Mais bon, ils sont obligés de repartir après deux semaines. Et voilà, ça s'organise un peu comme ça. C'est-à-dire que Damien et Sybille, donc la sœur et le frère aîné de Tiffaine, vont vraiment prendre ses recherches à plein temps, à côté de leur vie personnelle. Ça va prendre vraiment tout leur temps, c'est-à-dire depuis deux ans, ils font vraiment que ça pour rechercher leur sœur. En plus, en France, c'est pas évident. Et là, ils ont pas spécialement pu venir au Japon à cause de la fermeture des frontières au Japon à cause du Covid. Donc, tout ça s'organise à distance, mais avec plusieurs allers-retours. Donc, la première fois en août 2018. Ensuite, ils y retournent en octobre. Et au final, quatre fois, si je me trompe pas, quatre ou cinq fois, avec à chaque fois l'objectif de mener des recherches de terrain et d'éliminer, de fermer des portes sur la disparition de Tiffaine.
Oui, parce que justement, il y a plusieurs possibilités, plusieurs hypothèses, en gros, sur ce qui a pu arriver à Tiffaine. Sur quelle piste les enquêteurs et la famille se mettent en marche?
Alors, au départ, les autorités locales, ils émettent quand même un doute parce qu'ils disent c'est pas possible, c'est assez troublant comme disparition, et ils disent même à la famille c'est possible que ce soit un kidnapping. Ils éliminent l'hypothèse de la disparition volontaire. Comme on sait qu'au Japon, il y a beaucoup de disparitions volontaires, ils s'appellent les évaporés, c'est-à-dire c'est des gens qui disparaissent du jour au lendemain pour changer de vie. ce qui ne correspondait pas au profil de Tiffen. Et au fur et à mesure, quand la famille arrive sur place, l'hypothèse de la police, elle change. En fait, elle se dirige plutôt vers la piste accidentelle. En fait, derrière l'hôtel dans lequel séjournait Tiffen, il y a une rivière qui s'appelle la rivière Daya. Et à ce moment-là, donc Tiffen arrive le 28 juillet 2018 à Nikko. Et en soirée, il va y avoir le passage alors d'un typhon qui s'appelle le typhon Jongdarim, qui a été par la suite reclassé en tempête tropicale. Et ça, c'est important de le dire, parce qu'en fait, le lendemain, donc le jour de la disparition de Tiffen, le 29 juillet, certes, l'eau de la rivière Daya, qui est juste derrière l'hôtel, donc avait un peu augmenté la veille, mais elle était redescendue le jour de sa disparition. Le niveau de l'eau était redevenu voilà, plus ou moins dans les normes, mais il avait beaucoup plu. C'est pour ça qu'en fait, avec les conditions météo de l'époque, les policiers se sont dit, bon, il est fort possible que ce soit une chute dans la rivière, comme il en arrive dans ces régions. Il y a beaucoup de faits, on va dire, pas de faits divers, mais de cas de disparition de randonneurs dans les massifs environnants, des gens qui se font aussi un peu piéger, des locaux hein, qui font pas spécialement attention, des pêcheurs par exemple, et puis qui se font emportés par le courant. Sauf que, en général, on retrouve toujours quelque chose. On retrouve toujours un corps, on retrouve toujours un morceau de vêtement, une preuve de cette hypothèse accidentelle. Et dans le cas de Tiffen, même si la police japonaise défend depuis 2 ans, en fait, cette piste accidentelle, elle n'a absolument aucun indice et rien pour le prouver.
Il y a aussi la piste du suicide qui a été évoqué par la police, parce qu'il y a un lieu juste à côté qui est connu malheureusement à Nikko pour être un site où des gens viennent se donner la mort.
C'est vrai que du coup, les chutes de Kegon, qui sont à une quinzaine de kilomètres en voiture de l'hôtel, et un site ouais, de suicide. Il y a eu beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes étudiants qui y vont, de personnes plus âgées qui ont perdu leur travail, qui ont... Voilà, comme au Japon, on sait que c'est un pays où il y a beaucoup de suicides. Il y a des spots comme ça au Japon qui sont très connus, et je pense par exemple à la forêt de Aokigahara. On la surnomme la forêt du suicide parce que justement, bah, c'est pas loin du mont Fuji, et donc voilà. Sauf que, encore une fois, ces chutes, on retrouve toujours les corps en bas, en fait. Et quand ils sont pas retrouvés en bas, parce que justement le niveau de l'eau a monté, que les conditions de météo étaient pas bonnes ce jour-là, en fait, les corps dérivent dans un bassin d'une entreprise d'électricité. Donc 90% voire plus des corps sont retrouvés. Bien sûr, hein, le risque zéro de ne pas retrouver un corps, je pense que ça n'existe pas. Mais c'est quand même bizarre qu'on n'ait rien retrouvé. Et puis surtout, pourquoi Tiffen se serait suicidée, justement avec tous les éléments qu'on a, tout ce qu'elle avait préparé. Enfin, je veux dire, elle était tellement enthousiaste à l'idée de retourner au Japon. Elle avait une vie qui lui plaisait à Poitiers. D'ailleurs, son amie Fatih l'a décrit comme quelqu'un vraiment, c'est un rayon de soleil. Elle est auxiliaire de vie aussi, d'ailleurs, auprès d'enfants handicapés. Et ça, elle tient à son boulot vraiment énormément, quoi. Donc, elle avait aucune raison d'abandonner cette vie-là.
Il reste donc la piste criminelle, malheureusement. Il y a plusieurs possibilités, en gros, que la famille étudie et qu'elle reproche à la police japonaise de ne pas avoir suffisamment creusé. Il y a notamment une séquence que toi, tu décris dans ton enquête pour le site Les Jours, qui a été publié cet été, où Alors que la police dit que, en gros, seule la piste de l'accident semble la plus crédible, les enquêteurs font un test dans la chambre devant le frère de Tiffen et là, il se passe quelque chose d'assez étonnant.
Ils ont été très vexés de l'intervention en fait, de la famille qui a envoyé une lettre à Emmanuel Macron pour lui demander de l'aide et d'accélérer l'enquête. Et donc, ils ont voulu montrer leurs compétences devant la famille, en l'occurrence, donc dans la chambre de Tiffen, ils vont voilà, faire une démonstration de la police scientifique et appliquer le produit luminol, donc qui réagit au fer compris dans le sang, pour montrer que tout a été fait, qu'il n'y a pas de problème. Sauf que sous les yeux de Damien, eh bien, il y a une trace qui est révélée au luminol, juste à côté du lit où dormait Tiffen il y a encore quelques jours. Les policiers sont vraiment visiblement très surpris, ils s'attendaient pas à faire une telle découverte. Et puis pas de réponse en fait. Et on n'a jamais eu de réponse concrète à savoir si cette trace c'était vraiment du sang. Et donc quand moi j'ai posé la question... Au départ, elle a été un peu évitée. Et puis finalement, on m'a rappelé pour me dire « Non, mais en fait, on a quand même constaté qu'il n'y avait aucune trace de bagarre dans la chambre et on a analysé la tâche en question. » Et donc, bah, forcément, j'ai demandé « Qu'est-ce que c'est que cette tâche? Est-ce que c'est du sang ?» Et du coup, on m'a répondu qu'on ne pouvait rien me dire.
Parmi les pistes que la famille reproche à la police de ne pas avoir suffisamment creusées, il y a celle de l'hôtelier qui tenait qui tient la pension dans laquelle résidait Tiffen. Pourquoi cette suspicion autour de ce personnage? Qu'est-ce qui le rend suspect aux yeux de la famille?
Il y a deux choses. Déjà, la première, c'est que l'hôtelier, c'est la dernière personne à avoir vu Tiffen. Donc ce dimanche, il dit l'avoir vu sortir de l'hôtel. Et ça, c'est important, il dit vraiment l'avoir vu sortir aux alentours de 10 heures, selon son témoignage. Sauf que le problème, c'est que à 10 heures, précisément, les données téléphoniques de Tiffen la localisent dans sa chambre. Et ça, jusqu'à 11h40. Donc le témoignage de l'hôtelier ne correspond pas avec la situation.
Il y a une autre piste, une autre théorie que toi tu explores dans le dernier épisode de ta série d'enquête pour les jours, c'est celle d'un mystérieux personnage qui a été repéré, un homme qui se ferait passer pour un guide, si j'ai bien compris.
Au nord du quartier historique de Nikkō, dans le sanctuaire Takino, sévit, entre guillemets, un homme qui se fait passer pour un faux guide. Et cet homme, il se fait passer pour un faux guide pour aborder des jeunes femmes, leur proposer de leur faire découvrir Nikkō dans sa voiture, enfin de les emmener se balader sous prétexte, pour les harceler sexuellement. Et cet homme, en fait, il est connu des services de police. Selon la police, il n'était pas à Nikkō au moment de la disparition de Tiffen, mais la veille, le 28 juillet. Il aurait posté une photo de Nikkō sur son compte Facebook et ça, c'est la famille, encore une fois, qui va le découvrir. Donc, on n'a aucune certitude que cette personne n'était pas là.
Ce que ça révèle, tout ça, en filigrane, c'est l'incapacité ou la difficulté pour la police japonaise à accepter ne serait-ce que l'idée du crime. Et ça s'explique, selon certaines personnes que tu rencontres, toi, par... le taux de criminalité qui est très bas au Japon et qui fait que, instinctivement, les policiers repoussent cette piste au détriment, parfois même, de l'enquête.
Il y a, certes, au Japon, il y a un taux de criminalité qui est très bas. Par contre, on ne sait pas ce que contiennent vraiment les chiffres officiels. On sait qu'ils ne prennent pas en compte pas mal de paramètres, pas mal de crimes, et notamment les viols, les harcèlements sexuels. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas comprises dans ces chiffres, donc il faut se méfier quand même. Mais c'est vrai que dans cette ville, qui reste une ville de campagne, il se passe pas non plus grand-chose. Et les policiers de Toshigi, donc de la préfecture dans laquelle Tiffen a disparu, ils se retrouvent un petit peu désarmés. Enfin, ils n'ont pas forcément les moyens et les compétences pour réagir efficacement face à ce genre d'affaires, surtout si elle est criminelle, parce que tant qu'il n'y a pas d'indices et pas de corps, ils ne peuvent tout simplement pas ouvrir la piste criminelle. Donc ce qui empêche l'enquête d'avancer sur bien des points, et notamment sur la téléphonie, il y a quand même un manque de compétences peut-être, selon la famille, et de savoir-faire qui porte préjudice à l'enquête.
Ce qui peut aussi peut-être porter préjudice à l'enquête, on terminera là-dessus, c'est aussi la volonté de préserver l'image un peu de carte postale de Nico, de cet endroit, de cette région, alors que c'est une zone où il se passe des choses un peu macabres parfois, et notamment tu termines toi ton enquête en expliquant que quelques semaines seulement après la disparition de Tiffen, on a trouvé un crâne humain en décomposition pas très loin dans la région, et que là aussi la famille a essayé d'avoir des informations et elle s'est une nouvelle fois heurtée à un mur.
Oui, c'est cette image de carte postale qu'on donne au Japon et que les gens ont parce que c'est la vision qu'on veut montrer du pays, hein, forcément avec ses bons côtés. C'est ce qui se passe à Nikko, c'est une image de carte postale, c'est une destination touristique. En plus, la plupart des commerçants vivent du tourisme, donc cette affaire leur voilà, les embête un petit peu parce qu'ils ont peur des retombées économiques que cela peut avoir. Et puis c'est vrai que dans la région, eh ben, il y a un certain nombre de faits divers très étranges, dont ce crâne qui a été retrouvé aux abords d'une voie de train. Souvent, on retrouve des cadavres sans avoir plus de détails et c'est des choses qui restent inexpliquées pour l'instant, et c'est encore des questions de plus laissées sans réponse.
Et la série consacrée à Tiffen Véron, on l'a dit, c'est à lire sur le site lesjours.fr, un site de grande qualité, soit dit en passant, qui mène en ce moment une campagne d'abonnement pour pouvoir poursuivre son aventure. Merci à Caroline Gardin pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le Naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.